un livre, dès la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre, ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour à tous, avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous faire partager nos derniers coups de cœur et nos dernières lectures. Et oui, c'est le retour, la rentrée littéraire est arrivée et du coup les émissions aussi reprennent comme d'habitude, comme il y a deux semaines pour la première. Donc aujourd'hui, comme d'hab avec moi, vous savez bien, classique, j'ai trouvé des nouveautés et j'ai décidé d'en faire une émission et aujourd'hui ça va être l'Amérique. Alors pas l'Amérique d'aujourd'hui hein, pour la plupart, puisque ça va être des livres datant du 19e, du 20e siècle. Pour la plupart, c'est donc des livres qui vont se situer dans la deuxième partie du 20e siècle, après-guerre, pour la plupart, ainsi que les albums. Donc on va commencer par quoi? Allez, je commence par lequel? Parce que j'en ai beaucoup à parler aujourd'hui, donc on va essayer de... je vais essayer d'accélérer. Ah, le premier, j'ai bien aimé aussi celui-là. Voilà, un album. On va commencer par un album pour grands, ce qu'on appelle nous images à tout âge à la librairie, publié chez les éditions des éléphants, qui s'appelle Ruby Tête Haute, qui est donc un album écrit par Irène Cohen-Janka, très grand auteur jeunesse que j'aime beaucoup, et Marc Dagneau, un très grand illustrateur aussi, que j'aime beaucoup aussi. C'est adapté d'un tableau. C'est le tableau de Norman Rockwell, The Problem We All Live With, avec mon accent anglais parfait bien sûr. Donc Norman Rockwell, ce tableau en fait illustre une petite noire entourée de policiers qui vont à l'école. Qui vont à l'école. Et donc, c'est une histoire vraie. Ce tableau est né d'une histoire vraie, bien sûr. Nous sommes dans la Louisiane des années 60, vers la fin de l'apartheid. Du coup, on y arrive, hélas. Et Ruby, donc une petite noire, ne peut pas aller à l'école des blancs, bien sûr. Mais cette année-là, le pouvoir en place a décidé donc, d'envoyer quelques enfants noirs dans l'école des blancs. Autant dire, ce qui fait un tapin impressionnant. Nous sommes quand même dans une époque assez particulière. Il faut bien le voir. Donc Ruby, elle s'appelle Ruby Bridges. Et en 1960, donc, on décide que la ségrégation devait arrêter. Donc on envoie des noirs dans les écoles. Dans les écoles des blancs. Ce qui était totalement impressionnant et invraisemblable. Qui va susciter d'ailleurs beaucoup de manifestations. Ce qui expliquera la présence de ce tableau. Et la présence des policiers autour de cette petite fille noire pour la protéger. Donc elle perd tous ses amis, du coup tous ses repères, et surtout les autres enfants noirs à l'époque, tous les parents vont les déplacer d'école, vont pas les envoyer dans l'école des blancs parce qu'ils ont trop peur. Et Ruby décide quand même d'y aller. Donc Ruby va commencer à aller dans cette école, mais déjà elle va passer devant des gens qui manifestent une haine horrible. Ce que l'illustration rend très bien d'ailleurs dans l'album, cette illustration est assez intense. Et elle va commencer par être dans une salle toute seule. Elle était avec sa nouvelle maîtresse et toute seule seulement. Elle est juste toute seule. Et elle va continuer. Et pour les Noirs, ce sera un symbole, cette petite fille. Ce sera un grand symbole jusqu'au jour où elle va enfin avoir l'autorisation d'aller dans la cour des Blancs. Et là, ça va être pareil. Une rencontre un peu improbable, parfois. Et on va continuer cette année-là comme ça. Et on va découvrir sa vie à Ruby et comment elle a fait pour résister à la pression qu'il y avait autour d'elle. Parce que la pression était là, quand même. Enfin... ils imaginent dans la tête de cette petite fille de 6 ans aller à l'école entourée de policiers sous les cris haineux de gens. Donc c'est un très bel album, donc tiré de ce tableau que je trouve très très beau d'ailleurs, et réinterprété ici par Marc Dagneau du coup, bien sûr pour l'illustration, sur cette petite fille qui a un peu changé les choses à sa manière aussi à cette époque-là, dans les années 60 en Louisiane, à la fin de l'apartheid, à la fin de la ségrégation raciale. On va rester sur les albums, un plus ancien d'Antoine Guillopé, hein, on connaît bien Antoine Guillopé ici, chez Gauthier Langros, à New York. Nous sommes à New York, donc là nous sommes beaucoup plus proches de la fin du XXe siècle. C'est les albums que Antoine Guillopé a fait avec des papiers découpés en noir et blanc, donc qui donnent une impression de profondeur et de très beaux albums en général. Très lumineux avec ce blanc et en même temps très, très sombre. Voilà, c'est très particulier quand même. Moi j'aime beaucoup, les gens aussi aiment beaucoup en général, c'est vrai. Nous aussi, on aime bien. Et il a fait donc plusieurs albums de ce style-là autour des animaux, de la forêt. Et il en a fait un qui s'appelle Little Man. Et Little Man est un réfugié de guerre qui va avoir un rêve, le rêve de grandir dans cette ville de New York. Et qui va nous raconter son histoire. Alors, fait de petites phrases et surtout de grands décors de ce petit garçon qui découvre cette grande ville, cette ville énorme, cette grosse pomme après tout. Et voilà, c'était un très bel album en papier découpé. Nous, on aime beaucoup, c'était très engagé, bien sûr. Et c'était vraiment l'occasion, voilà, de reparler de cet album. On en a déjà parlé, on a déjà fait des choses autour de cet album. Et je trouve que c'est toujours un très très bel album à offrir et un très bel album à lire aussi pour soi. Voilà, donc c'est Little Man d'Antoine Guillopé chez Gauthier Langros. Très très bel album. Et on va passer donc à celui qui fut mon coup de cœur pour cette émission. Enfin, il y en a, du coup, il y en a deux coups de cœur. Bon, au premier coup de cœur pour cette émission. Nous sommes en 1949, donc il s'agit de Colorado Train, de Thibaut Vermeaux, premier roman d'ailleurs de ce jeune auteur, chez Sarbacane. Exprime Sarbacane, donc la collection pour grands ados, qui est donc une collection de textes assez durs parfois, ou voilà, assez grands. Donc nous sommes à Durango, du côté des Rocheuses. L'Amérique profonde de 1949, nous sommes après la guerre. Juste après, du coup, hein, on est vraiment dans cette Amérique profonde un peu... celle qui est pas un peu pourrie, mais c'est celle qui a enfanté les Mark Twain, les Tom Sawyer et tout ça. Donc là, c'est vraiment un mix entre Tom Sawyer et ça de Stephen King, presque. On pourrait dire. C'est presque ça. Puisque c'est quatre, cinq copains. Michael, Denis, Dora Major et Suzy, qui ont plein de jeux, qui découvrent l'adolescence ensemble, l'amour aussi, puisque voilà, il y a cette petite phase aussi entre les personnages qu'on va découvrir, surtout avec Suzy, qui est un peu la seule jeune fille. Mais dans l'ombre, quelque chose les regarde. Quelque chose est là. On a toute l'Amérique profonde qui est là, et on a ce tueur, ce monstre. On va pas savoir tout de suite, et je vous le dirai pas, mais en tout cas, qui va être en parallèle dans le roman, qui va nous raconter pas son histoire, mais qui va nous raconter comment il voit les choses. Et c'est très très impressionnant. C'est pour ça que je dis que c'est un mix entre Tom Sawyer pour le côté paysage, liberté, joie un peu éphémère, découverte de la petite cabane au sommet de l'arbre, ce genre de choses. Et en même temps, ce monstre, cette espèce de monstre qui tue des enfants, qu'on ne retrouve pas, ou en morceaux, mangés. Oui, il les mange. Il mange. C'est bon. Et du coup, les gamins vont... devoir enquêter par la force des choses. Au départ, ils vont enquêter un peu parce qu'on en parle, parce qu'un des gamins, une des brutes en fait du bled de Durango a disparu. Donc au départ, ils sont très contents parce que c'était une brute qui les martyrisait aussi, comme bien sûr tous font des brutes. Mais ils commencent à s'inquiéter et puis ils vont s'apercevoir que la police piétine. Ils vont découvrir 2-3 trucs, mais sans trop. Jusqu'au moment où le monstre va être là pour eux. Et là, il va falloir commencer à réellement enquêter et à sauver sa vie surtout. C'est un super roman. Alors, j'ai adoré l'ambiance poussiéreuse, sombre, chaude, un peu de cette Amérique pourrie. Cette Amérique d'après-guerre un peu pourrie. Un mix entre cette violence parentale, si je puis dire, ses armes et ses parents qui n'avaient pas grand-chose à faire de leur môme à l'époque, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à vendre l'invention des gamins. Notamment deux gamins qui ont inventé une espèce de fusée qui marche qu'à moitié, mais... qui est une super idée, et puis c'est quelque chose auquel il passe beaucoup de temps, on la vend pour 100$ à un mec qui passe par là, parce que voilà, c'est très bien, 100$ c'est mieux, on peut racheter une télé, on est à l'époque des premières télés. Des choses comme ça en fait, cette violence aussi physique qui va avoir lieu entre les parents et les personnages, notamment le père de Suzy, qui est un ancien alcoolique suite à un meurtre qui l'a complètement dévasté, et qui est très très violent avec sa fille Suzy, qui n'en parle jamais à ses amis d'ailleurs. Enfin voilà, cette Amérique un peu très profonde, très terre-à-terre, très paysanne d'un côté, très redneck comme on dit. Et voilà, c'est une ambiance voilà entre Tom Sawyer et ça, et c'est génial, c'est vraiment génial, c'est une super ambiance, c'est un super roman, vraiment, bourré d'action, bourré de petits clins d'œil à cette Amérique-là. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, pour un premier roman, je trouve qu'il a mis la barre bien, bien haute. Et j'ai hâte de lire un autre roman de lui. En tout cas, celui-là, j'ai hâte de le conseiller parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mon deuxième coup de cœur à l'école des loisirs. Alors, à l'école des loisirs qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien ». Un peu comme dans La haine de Mathieu Kassovitz, de Gary Deschmidt. Alors pareil, je crois que c'est son premier roman traduit, en tout cas, puisque lui, il est américain. Nous sommes en 1968, encore une fois, vous voyez, après guerre froide. Une famille un peu étrange va devoir déménager, enfin pas étrange, non, mais une famille un peu Bah avec des problèmes, pas mal de problèmes. Finalement, le père qui est sans repère, qui est très très violent, on l'a dit, comme le dit le gamin, il a la main rapide. Une mère qui est complètement démissionnaire de tout ça, qui essaie juste de pas se faire taper dessus parfois par son père. Deux grands frères, dont un qui trafique un peu à tout va, mais surtout qui prend, qui essaie de s'en sortir comme il peut. L'autre qui est parti à la guerre du Vietnam, disparu. Pas assez d'argent à la maison, trop de bagarres au collège. Et ce gamin qui va découvrir cette nouvelle ville. Et juste une bibliothèque qui est ouverte le samedi. Des oiseaux. Et aussi une idole de baseball. Puisque ce sera en partie aussi un truc qui va le suivre le long du roman. Et voilà, ce gamin, il enchaîne les boulots, les machins, les trucs, pour essayer de survivre. Et c'est très beau, c'est vraiment beau, c'est parfois drôle. Il va se passer des choses parfois qui sont très drôles, parfois dures. Parce que c'est aussi ça, la vie. Mais c'est... Enfin, voilà, on a envie tellement de continuer avec lui, on a envie de voir ce qui va lui arriver. On a envie de découvrir plus ce gamin, cette ville aussi, cette petite ville de l'État de New York, et lui qui voudrait aller au Yankee Stadium, ce gamin, et pour voir son idole. Donc voilà, c'est les Yankees, et c'est tout ça, c'est tout cet univers, Joe Pepitone, voilà. Joe Pepitone, avec un langage très particulier, première personne, avec des phrases courtes, enfin c'est vraiment très intéressant comme roman, vraiment super roman, ça m'a éclaté à lire, ça a été une de mes, c'est mes deux coups de cœur, c'est cela, c'est le Colorado Train pour l'ambiance américaine profonde de Sarbacane, et pour ses personnages, ce serait Jusqu'ici tout va bien, qui sont des personnages vraiment très très forts et très intéressants à lire, donc à l'école des loisirs pour le Jusqu'ici tout va bien. Et deux plus anciens. Eh ouais, ouais, je remonte le temps aussi, moi. Alors, La Ballade de Schnooper. Encore chez Exprime Sarbacane de Martin Pouchin. Encore Sarbacane, qui, décidément, nous publie vraiment des bons romans, quoi, depuis un moment déjà. Enfin, ça fait un moment que cette collection existe, et vraiment intéressante. La Ballade de Schnooper a été adaptée en BD, d'ailleurs, aussi, très intéressante, faite, illustrée par Christophe Merlin. Chez Sarbacane aussi, je crois, d'ailleurs, si je me trompe pas, pour la BD. Schnooper. Schnooper, La Ballade de Schnooper. Alors, tout ce roman va être raconté par un petit garçon qui a aussi ses problèmes, Bud. Qui est un petit garçon omniscient, en quelque sorte. Parce qu'il découvre plein de choses sur Schnooper. Et qui est Schnooper, en fait? Qui est Schnooper? Schnooper, c'est un homme brisé. Clairement, il a eu beaucoup de soucis dans sa jeunesse et dans sa vie, et il en a gardé des traces. Des traces qui sont parfois, qui sont l'alcoolisme, la violence, et voilà, il a des problèmes de toute façon avec le monde entier, en quelque sorte. Il est très en colère tout le temps. Et il est chargé d'un boulot, c'est tuer les bêtes à l'abattoir. Mais lui, il y prend du plaisir. Il prend du plaisir à voir les yeux des bovins affolés avant de leur mettre le coup de pistolet électrique à travers la tête. Et un jour, sa femme n'en peut plus de cet homme. Et pourtant, il l'aime beaucoup, hein, sa femme. Mais il a beaucoup de mal à lui dire aussi, en fait, sans avoir autre chose qui lui passe par la tête. Et elle s'en va. Elle fait, j'en ai marre, je m'en vais. Et là, Schnooper pète un plomb, clairement. Il prend sa voiture, de l'alcool, sa vieille Thunderbird. Donc pareil, vous voyez, on est dans l'Amérique d'après-guerre. Et il prend AC/DC à fond, donc même, voilà, même après-guerre, même 90, oui. Et il prend AC/DC, il met AC/DC à fond et il s'explose dans un platane. Il s'explose dans un platane, clairement, quoi. Et il se réveille à l'hôpital, et il y a quelque chose qui a changé. Il saurait pas dire quoi, mais il a quelque chose qui a changé. Alors il va essayer de se... c'est ça, c'est une histoire de rédemption. Il va redécouvrir la vie, peut-être essayer de réparer des erreurs à lui, peut-être assumer autrement, parce qu'il a failli mourir, en fait. Et cet éclair... Mais cet éclair va lui permettre à lui de se remettre sur les rails. Et à Bud, notre narrateur, peut-être aussi lui de se remettre sur les rails, ce petit garçon avec beaucoup de problèmes qui parle avec des oiseaux. C'est une très belle histoire, c'est une très belle balade, voilà, avec des personnages aussi très 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 forts. Donc il a été dans les Dévoreurs il y a quelques années, celui-là, moi j'ai beaucoup aimé. Et ouais, Schnooper, ce personnage un peu légendaire de ce mec qui était super violent et qui va se découvrir finalement une espèce de rédemption. Et aussi une histoire d'amour aussi dedans quand même pour lui. Entre lui et son père, d'ailleurs, entre lui et Bonnie, peut-être qu'elle pourrait revenir, entre lui et Bud, du coup, qui vont devenir deux éclopés, mais peut-être un peu moins l'un avec l'autre. Donc c'est un très beau roman chez Exprime Sarbacane, il y a quelques années, et l'adaptation en BD était pas mal non plus, même si je préfère le roman pour toutes les les impressions de Bud qu'on va avoir. Et j'en ai un que j'aime beaucoup aussi, mais lui il est plus vieux. Alors lui il remonte dans le temps, c'est Marcus Malt de Poussière et de Sang. Ah, Marcus Malt, on le connaît surtout pour le prix Femina, Le Garçon, ses livres en adulte. Il a un album qui va sortir en octobre, illustré par Régis Lejon, qui sera donc à la librairie Loiselier le 5 décembre, sur l'amour d'un père à sa future fille qui va naître. Les illustrations sont sublimes et le texte est magique. Marcus Malt, un très grand auteur, et il y a quelques années, peu s'en souviennent, les libraires s'en souviennent, il nous avait sorti le premier western pour jeunesse, le vrai. Mais le vrai, celui-là, pas le western qu'on pourra avoir, il y a eu certaines autres versions de western, mais le vrai. C'était un vrai western de Mosquito. Mosquito qui va être enlevé, donc oui, c'est ça, il s'appelle Mosquito est enlevé par une bande d'or la loi. Après qu'on ait tué ses parents, je sais plus, enfin bref, voilà, vous voyez le western. Et il va découvrir la vie dehors la loi, et comment survivre en fait. Du coup, il est enlevé pour parce qu'on a besoin de main d'œuvre. Hein. Quand on est hors la loi, on peut pas tout faire soi-même. Donc on va l'enlever et il va grandir avec ses hors-la-loi, ses monstres, en quelque sorte, ses bandits aussi de grand chemin. Et c'est génial, c'est un pur western, on sent la poussière, on sent le purin, on pourrait dire même. C'est très 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 grand roman, un vrai roman de western et en même temps un vrai roman autour de l'amour et la vie. C'est vraiment ce gamin qui essaye de survivre et qui essaye de vivre, trouver sa place en fait au milieu de tout ça. Et c'était un pur western, vraiment, alors là on peut pas faire mieux comme western, à mon sens, comme vrai western. Donc voilà, un grand roman chez Pocket Jeunesse, maintenant en version poche Pocket Jeunesse, et super bien, vraiment, si vous cherchez un bon western à vous lire, celui-là, il envoie. Voilà, et il va être l'heure, j'ai même dépassé l'heure, mais de façon complètement... je m'en foutiste, comme on dit. J'aurais pu encore vous parler d'un petit dernier, et je vais le faire quand même, vous voyez. C'est Mon père est américain, de Fred Parnoudzi, chez Thierry Magnier, qui était dans Les Dévoreurs de livres aussi. Léo est un jeune garçon à qui on a dit toute sa vie que son père était parti, ou mort, je sais plus ce qu'elle lui a dit, sa mère, je vous avoue que j'ai lu il y a très longtemps celui-là. Et qui va découvrir en fait que c'est faux. Après beaucoup de rébellion de sa part en tant qu'ado, il va découvrir que c'est faux et que son père en fait est dans les camps de la mort, dans une prison américaine dans les camps de la mort. Et il décide de lui écrire pour lui raconter toute sa haine envers lui, par exemple, enfin des choses comme ça, sauf qu'ils vont commencer à échanger vraiment, et que d'un côté, le garçon va lui raconter ses histoires à lui, ses histoires d'ado, et que le père va lui raconter sa vie dans le couloir de la mort, et on va avoir qui va transiter autour de ces personnages-là. C'est pas plombant du tout, justement, parce que autour de ces personnages-là, on va avoir donc l'adolescence, la découverte de l'amour aussi pour lui, et cette avocate qui se bat pour cet homme, qu'elle est persuadée qu'il n'est pas innocent, mais qui peut se racheter une conduite. Donc c'est toute cette histoire, et on va découvrir pourquoi, bien sûr, il a été enfermé. C'est un super roman, c'est un très très beau roman, c'est une très belle, c'est de très belles lettres, c'est très facile à lire, c'est des échanges de lettres parfois. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon roman entre ce père inconnu et ce fils qui découvre ce père de loin à travers quelques lettres, des bribes de lettres qui sont bien sûr vérifiées avant. Enfin vous voyez toute l'horreur et l'inhumanité qui peut régner dans les camps de la mort, dans les prisons américaines, dans les couloirs de la mort plutôt. Je vais y arriver, dans les couloirs de la mort. Voilà. Donc c'est très très beau roman, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous laisser parce que sinon je vais vraiment dépasser de beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. Bonne fin de journée.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.